Merci Ezequiel Fernandez, bonne soirée. Bonsoir, c'est un nouveau temps du débat d'été qui s'ouvre sur France Culture. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h avec une question: peut-on militer sur les réseaux sociaux ? C'était il y a quelques jours, la dernière semaine de juillet. Ceux d'entre vous qui fréquentent assidûment les réseaux sociaux auront remarqué cette vague soudaine de portraits de femmes en noir et blanc. Des photos plutôt avantageuses, regard face à l'objectif, lumière soigneusement retouchée à l'aide de filtres Instagram, des selfies qui, par leur nombre et par leur absence de couleur, tranchaient avec le flot ininterrompu de contenu. Alors en s'arrêtant sur l'une de ces images postées sur Instagram, Twitter ou Facebook, on découvre deux hashtags: Challenge Accepted, défi accepté, et Women Supporting Women, des femmes qui se soutiennent entre elles. Toutes les femmes étaient ainsi invitées à poster une photo d'elles-mêmes en noir et blanc sur les réseaux sociaux avant d'inciter leurs amies à faire de même. L'idée derrière ce challenge: promouvoir la sororité et l'empowerment féminin, un mot d'anglais qu'on pourrait traduire en français maladroitement par empouvoirment. Plusieurs célébrités ont donc relevé le défi qui s'est propagé à la vitesse de l'éclair, plus de 6,5 millions de posts sur Instagram et dans le monde entier. C'est alors que le retour de bâton est arrivé sous la forme d'un article signé Taylor Lawrence, journaliste au New York Times. Le couperet tombe: le selfie en noir et blanc n'a aucun sens, il n'accomplit rien, mis à part la promotion de soi. C'est en fait une critique récurrente dans les médias anglo-saxons envers ce qu'on appelle le performative activism. En français, on pourrait dire activisme performatif, un activisme qui, avant de servir une cause, permet d'accroître son capital social, son nombre de likes et de se faire bien voir. Cette critique, on l'avait beaucoup entendue déjà début juillet à l'occasion du Blackout Tuesday, mardi noir, un jour où tous les internautes étaient invités à poster un carré noir sur les réseaux en solidarité avec le mouvement Black Lives Matter. Mais cet activisme performatif ne doit pas occulter le très large spectre des pratiques militantes sur Instagram, Facebook, Twitter ou Snapchat. Le hashtag MeToo a provoqué un séisme mondial, les groupes Facebook furent l'autre terrain de rendez-vous des gilets jaunes, la pensée féministe se transmet dans des stories Instagram. Mais que peut-on vraiment accomplir depuis les réseaux sociaux? L'engagement se dilue-t-il dans la mise en scène de soi propre au web d'aujourd'hui? Comment l'expression politique en ligne s'articule-t-elle avec l'action? Pour en débattre jusqu'à 19h, quatre invités ce soir. Traoré Bintou Mariam, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste, vous êtes ivoirienne et vous êtes à l'origine du hashtag Vraie Femme Africaine qui a connu un certain succès au mois de mars dernier en tournant en dérision les stéréotypes dont sont victimes les femmes africaines. Votre mot dièse s'est propagé jusqu'en France, en France et dans toute l'Afrique francophone et puis même bien au-delà. Également avec nous en studio, Josiane Jouette, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur émérite en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Paris 2. Vos recherches portent notamment sur l'activisme féministe en ligne. Nous recevons également au téléphone Baptiste Cotras. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue à l'Université Paris-Est Nanterre et vous êtes l'auteur de La Voix du Web, nouveau régime de l'opinion sur Internet aux éditions du Seuil. Et puis pour finir à distance également, bonsoir Benjamin Tenturier.
Bonsoir.
Vous menez une thèse au Media Lab de Sciences Po sur le renouvellement de l'engagement militant de la droite radicale sur Internet et les médias sociaux.
Je voulais venir aujourd'hui car ce n'est plus acceptable d'être seulement un militant performatif sur Instagram à poster des photos. Vous devez sortir pour défendre vos amis et votre famille ainsi que vos pairs et collègues. C'est très important de venir ici et répandre le message que ce n'est plus suffisant de ne pas être raciste. Il faut être antiraciste et interpeller les gens quand ils se comportent de façon inappropriée envers vos amis.
C'est la voix d'une londonienne. Le 3 juin dernier, lors des manifestations Black Lives Matter qui ont suivi la mort de George Floyd, interrogée par la chaîne de télévision Sky News, la manifestante fait donc appel à cette notion d'activisme performatif que j'évoquais en introduction. Traoré Bintou Mariam, vous qui avez lancé ce hashtag Vraie Femme Africaine, que pensez-vous de ces critiques adressées au challenge du portrait en noir et blanc ou encore au carré noir Black Lives Matter?
Je pense que déjà c'est tout à fait légitime, déjà c'est la liberté d'expression. Et je pense qu'on a en même temps du vrai et aussi du faux. Pour ma part, je me considère maintenant comme, c'est peut-être péjoratif, comme une féministe 2.0. Pour moi, le féminisme 2.0, même si on le dit de manière à décrédibiliser, à ridiculiser, pour moi, c'est le féminisme de cette ère. C'est-à-dire, je crois que les réseaux sociaux sont un outil. Tout le monde utilise les réseaux sociaux. On a de tout. On a tout le monde qui véhicule ses idées. Avant, les militantes féministes passaient de porte en porte, organisaient des manifestations, faisaient des choses. Mais aujourd'hui, avec l'avènement d'Internet, on a le choix. Et on a le droit d'occuper l'espace médiatique, d'occuper l'espace numérique, et en même temps ça éduque aussi la population. Mais où je trouve qu'il y a un problème, c'est que dans beaucoup de cas, après les réseaux sociaux, on n'a pas d'action. On a, je dirais, une certaine vague, je ne sais pas si vous connaissez le terme woke.
Alors woke, c'est un mot anglais, c'est un participe présent anglais qui veut dire réveiller.
Oui.
Voilà,
oui.
Qui veut dire éveiller voilà, aux causes dont on parle.
On a beaucoup de personnes qui surfent beaucoup sur tout ce qui est militantisme en ligne. Après, ce n'est pas forcément mauvais, parce que comme je l'ai dit, on est dans l'ère du militantisme 2.0. Tout le monde ne peut pas aller forcément sur le terrain, tout le monde ne peut pas forcément poser des actions. On a des personnes qui ne sont pas encore vraiment sensibilisées, on a des personnes surtout qui ont peur de certaines violences, donc qui font le travail sur les réseaux sociaux. Mais où ça pose un problème est qu'après, il n'y a pas d'action, il n'y a pas vraiment d'action concrète. En fait. C'est-à-dire on poste juste une photo par là, on utilise juste un hashtag par là, et puis après, ça finit comme ça dans le vent. Après, on ne demande pas à tout le monde de sortir dans la rue comme ça, marcher, mais au moins essayer de s'organiser entre vous, créer des groupes, faire quelque chose de plus viable sur le long terme.
Alors racontez-nous votre hashtag Vraie Femme Africaine, comment vous l'avez-vous lancé et que s'est-il passé dans les semaines qui ont suivi?
J'étais juste là et je le dis à chaque fois, je regardais une émission. C'est une émission ivoirienne qui s'appelle On se dit les gbé. Et on avait une femme qui était en train d'acculer une autre femme comme quoi elle n'avait pas accouché de manière naturelle. Elle avait été opérée, tout ça, et elle avait utilisé la péridurale. Et elle était en train de lui dire oui, c'est pas comme ça. Les vraies femmes, elles accouchent pas comme ça. Les vraies femmes, ça doit souffrir. Et j'ai commencé à me poser des questions. Au fur et à mesure de mes lectures, j'avais remarqué que pour moi, c'était comme si la femme africaine avait été, à cause de la colonisation et à cause de beaucoup de choses, en fait, on est voué à la souffrance. Parce qu'on nous a vu subir beaucoup d'abus et on nous a vu, on se dit qu'on est toujours en vie. Donc on se dit que oui, en fait, elle, c'est une personne résistante, c'est une femme résistante. C'est pas une fleur, on peut lui faire toutes les choses, on peut lui faire toutes les misères du monde. Et puis,
donc ce hashtag, vous l'avez créé de façon ironique pour tourner en dérision ces injonctions qui sont faites aux femmes africaines?
J'ai posté mon message sur Facebook, j'ai posté « Femme africaine, tu enfanteras dans la douleur pour prouver que tu es une femme africaine ». Je suis allée me coucher le lendemain. Honnêtement, le côté ironique, je dirais que c'est pas moi qui l'ai sorti. Je reconnais que généralement, j'utilise beaucoup l'ironie sur les réseaux sociaux, mais c'est pas moi qui l'ai sorti. Le lendemain, les réseaux sociaux étaient inondés de ça et c'était un peu de partout. C'était vraiment très drôle parce qu'il y avait vraiment des situations, c'était ouf comme on dit.
Donc il a trouvé un vrai écho en tout cas, ouais. Vous n'imaginiez pas au moment où vous créiez ce hashtag que les femmes s'en empareraient de cette façon et que ça permettrait aussi du coup de libérer la parole aux femmes d'échanger entre elles sur ce thème.
Oui, mais ça m'a surtout fait prendre conscience qu'il y avait la volonté chez elles de dire beaucoup de choses en fait. Il y avait vraiment une certaine volonté pour une fois d'exprimer des choses. Si autant de femmes ont utilisé ce hashtag-là, c'est qu'il y a un problème et qu'il serait vraiment temps en fait de les écouter, d'écouter leur voix à elles.
D'accord. Baptiste Cotras, je rappelle que vous êtes sociologue, que vous travaillez sur les opinions sur Internet. Je reviens à cette notion d'activisme performatif. Quand on affiche son soutien à une cause sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qui relève de l'engagement politique? Qu'est-ce qui relève d'une forme de représentation ou d'appartenance à une communauté?
Je ne suis pas sociologue des mouvements sociaux, mais je pense que c'est assez consensuel de dire que militer, participer à un mouvement, soutenir une cause, c'est toujours indissociablement un travail politique, de donner son poids, de donner sa voix à quelque chose qui nous semble important. Et puis c'est quelque chose dont on retire toujours des gratifications, parce que c'est bien de montrer sa prise de conscience sur des sujets, c'est bien, ça peut avoir des effets bénéfiques toujours de réputation, de dire voilà, telle personne, elle est engagée, elle est présente, active dans son temps. Et donc, je pense que cette critique qui est faite à cette forme d'activisme en ligne que vous avez appelé performative activism, ou moi je me rappelle il y a quelques années on parlait de slacktivisme.
Effectivement.
Slack qui veut dire, il me semble, paresseux en anglais, ou quelque chose comme ça. En fait, bah voilà, c'est une critique qui est aussi vieille que les mouvements sociaux, parce que on opposait, vous parliez peut-être tout à l'heure d'opposer réel et virtuel, ou d'opposer par exemple partager une photo sur Instagram versus aller dans une manifestation, avec l'idée implicite qu'aller dans la manifestation c'est plus engageant, c'est plus réel, mais en même temps on a une très très longue tradition de critique des manifestations comme activité qui n'aurait pas de sens, où en fait il s'agit juste de marcher d'un point A à un point B, on ne fait pas grand chose, on est là, on marche, etc. Alors qu'en fait c'est précisément l'addition de ces petits actes individuels qui seuls effectivement n'ont pas de poids, qui installe un rapport de force, une visibilité, etc., et donc fait progresser une cause dans l'espace public.
Josiane Jouette, Baptiste Cotras évoquait à l'instant la question du niveau d'engagement. Lorsque l'on poste une image sur les réseaux sociaux en soutien à une cause, est-ce qu'on peut parler de militantisme ?
Absolument pas. Voilà, il faut distinguer l'engagement 2.0, hein, disons, du militantisme. Le militantisme, c'est lié à une action collective. Voilà. Alors, ce qui est intéressant avec effectivement ce qu'on appelle l'activisme 2.0, il faut dire qu'activisme veut dire action, c'est qu'il y a différents niveaux. Donc, à la fois, vous avez une blogosphère politique absolument gigantesque, puisque finalement tous les groupes politiques et tous les mouvements sociaux, y compris les partis traditionnels, enfin donc sont sur Internet. Mais donc là, nous sommes dans des formes de militantisme, où en fait on parle au nom du groupe, voilà, en vue d'une action collective. Et vous avez une autre forme d'engagement, qui est l'engagement dont a parlé Traoré Bintou, qui existe aussi, qui pour moi n'est pas du militantisme, mais qui est une forme d'engagement, de soutien à une cause, voilà, sans être un militant pour autant. Et ça s'est beaucoup, beaucoup développé sur Internet, parce qu'en soi, le numérique, c'est une plateforme de démocratisation absolument extraordinaire. N'importe qui peut prendre la parole, hein, disons, sur les réseaux sociaux, faire un blog, etc. Et donc, vous avez des formes d'engagement qui sont essentiellement subjectifs. Donc, on exprime son point de vue, mais on exprime son point de vue par rapport à une cause. Donc, c'est pas du tout du militantisme, mais c'est une forme d'engagement individuel. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'individualisme connecté en politique. Voilà.
Et ça relève presque d'une forme de sociabilité en ligne, voire même de loisir. Enfin, vous étudiez les mouvements féministes en ligne. Est-ce que vous avez des exemples à nous donner ?
J'ai beaucoup de notes. Juste pour terminer sur ce qu'on appelle performative activism. Donc le fait effectivement de mettre les carrés noirs et blancs en soutien d'une cause, etc. Alors beaucoup d'influenceurs de marques, de produits, de beauté, etc. vont mettre, disons, ce carré contre le racisme. Mais en fait, ce sont des influenceurs marketing. Voilà. Et donc, pour moi, ce sont des influenceurs qui sont influencés. Comme ce sont des prescripteurs de tendance, ils vont suivre la tendance du moment. Et la mode, c'est Black Lives Matter. Voilà. Donc, en fait, ça n'est pas du militantisme. Ils suivent l'air du temps.
Voilà. S'engager, c'est presque parfois un passage obligé pour exister.
Ça, c'est pas de l'engagement. Ça, c'est pas de l'engagement. Voilà.
Ce n'est pas de l'engagement.
C'est du marketing de soi. Mm-hmm. Voilà. Et du marketing de la marque. Parce que la marque aussi leur demande. Donc, en fait, il faut vraiment distinguer, disons, ce qui est politique de ce qui n'est pas politique. Pour revenir, effectivement, j'ai étudié le féminisme en ligne, et le féminisme en ligne est extrêmement important. Et donc, vous avez beaucoup de collectifs en ligne, d'anciens collectifs et des collectifs nouveaux qui se sont créés en ligne. Je pense qu'une des choses qui est les plus intéressantes à étudier aujourd'hui, c'est le mouvement MeToo. Le mouvement MeToo, qui a fait des milliers, des milliers, des milliers, disons, de followers. Et on est encore dans le mouvement MeToo aujourd'hui. Donc l'idée, il faut bien distinguer ce qu'on appelle slacktivism, hashtivism, juste de l'annonce, voilà, disons on poste une image, on poste un slogan, voilà, de ce qui est le militantisme, qui est de l'action collective, qui, disons, s'opère sur en ligne, mais qui est lié à d'autres structures et qui vont contacter les médias, contacter les politiques et faire bouger la société. Et si on voit un exemple où, l'activisme en ligne a vraiment été très très efficace jusqu'à aujourd'hui, même s'il est toujours menacé, c'est bien dans le cas du féminisme qui a fait bouger les lois. Donc nous sommes là vraiment dans du vrai militantisme. Mais ça n'est pas pour discréditer d'autres formes d'engagement plus subjectifs.
Bintou Mariam Traoré, je rappelle que vous êtes la journaliste à l'origine du hashtag Vraie Femme Africaine. Lorsqu'une pratique militante s'épanouit principalement en ligne sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'elle peut accomplir? Il s'agit de faire circuler des idées, d'éveiller les consciences, de donner une visibilité à une cause?
Elle peut déjà porter la voix des personnes marginalisées et des personnes victimes, parce que c'est pas toujours évident, surtout pour les femmes, de pouvoir parler, de pouvoir se confier, de pouvoir s'exprimer. Donc à travers les réseaux sociaux, on a déjà le droit de s'exprimer, même si en retour on a parfois des personnes qui essaient de museler, des personnes qui essaient de te faire taire, mais tu sais que tu as ton compte, tu sais que tu as ton espace et tu sais que tu peux diffuser tout ce que tu veux. Déjà, on peut déjà repérer les personnes qui ont le même engagement et les mêmes pensées que soi. Et ça peut nous permettre de nous constituer en synergie, de nous constituer en réseau pour mieux nous faire entendre. On peut lancer des cagnottes, on peut lancer des aides, on peut éduquer, on peut amener d'autres personnes à se joindre à la cause. Et après ça, on peut relier ça à la réalité en posant des actions sur le terrain.
Donc comme Josiane Jouette l'évoquait à l'instant, il s'agit, une fois le hashtag lancé, le mouvement lancé, de s'organiser finalement sur un mode plus traditionnel du militantisme.
Oui, c'est ça. J'avais rencontré des femmes sur Internet, des femmes ivoiriennes de Côte d'Ivoire, avec qui on discutait, on parlait, on se disait tout le temps, oui, il faut qu'on agisse, il faut qu'on fasse quelque chose. Et après le hashtag Vraie Femme Africaine, on a décidé de créer une association qui est basée en Côte d'Ivoire. L'association s'appelle la Ligue Ivoirienne des Droits des Femmes. C'est une association féministe qui lutte contre les violences sexistes et sexuelles envers les femmes en Côte d'Ivoire. Et on prend des femmes en charge, on prend des cas, c'est principalement des cas de violence conjugale et de viol. Et ce qui prouve que c'est pas vraiment indissociable des réseaux sociaux et que tous les cas qu'on a, c'est des cas qu'on prend sur les réseaux sociaux. Ce sont des appels qui sont lancés sur les réseaux sociaux. C'est des femmes qui nous écrivent sur les réseaux sociaux. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la Ligue Ivoirienne des Droits des Femmes est indissociable, en fait, des réseaux sociaux, parce que c'est par les réseaux sociaux qu'on entend le cri de cœur des femmes. Hier même en France, ici, j'étais au chevet d'une femme ivoirienne qui a été victime d'agression sexuelle. C'est par les réseaux sociaux que j'ai eu l'information et c'est après ça que j'ai décidé de me rendre sur place en fait pour l'aider.
Baptiste Cotras, au début de sa réponse, Traoré Bintou Mariam évoquait le fait que les réseaux sociaux sont un canal pour faire entendre sa voix, entendre des voix qui ne peuvent pas s'exprimer autrement. Est-ce que, au final, l'engagement sur le réseau n'est pas aussi le résultat d'une absence d'autres alternatives pour se faire entendre pour certaines communautés?
Alors effectivement, il y a historiquement, il y a un phénomène qui fait que les voix contestataires, les voix les moins représentées dans l'espace médiatique traditionnel, c'est-à-dire la télé, la radio, la presse, ces voix-là se sont emparées d'Internet à partir des années 90 parce que c'était très peu coûteux, parce que c'était extrêmement libre et y ont trouvé une forme d'espace d'expression. Un exemple classique dans cette histoire, c'est le référendum de 2005 sur le traité constitutionnel européen, où la plupart des médias traditionnels étaient plutôt orientés vers le oui, et où sur Internet, il y a eu un très très fort mouvement contestataire vers le non, porté par la blogosphère à l'époque, avec des personnalités qui ont émergé à ce moment-là comme Étienne Chouard, et qui finalement voilà, ont contrebalancé l'espace médiatique traditionnel. Je ne dis pas que c'est Internet qui a causé la victoire du non, hein, bien sûr, mais disons que ça a participé à offrir un espace alternatif d'expression. Après, ce qui me paraît très intéressant dans ce que disait Traoré Bintou Mariam, c'est que le premier effet d'Internet, en fait, c'est de pouvoir agréger des prises de parole qui sinon resteraient déconnectées. C'est ce qui s'est passé donc avec le hashtag Vraie Femme Africaine, c'est ce qui se passe avec, en fait, les hashtags qui sortent, qui acquièrent une visibilité dans l'espace médiatique, parce que le hashtag, c'est un outil d'agrégation. C'est en affichant ce hashtag dans un message, on permet d'additionner des messages, des expériences, des ressentis extrêmement divers, mais qui s'emparent du même concept pour décrire leur expérience. Et ça crée un effet de masse, de la même manière que des corps en mouvement dans une rue font un effet de masse dans la manifestation. Et ça rend visible, en fait, ce qui est en train de se passer, la prise de parole dont il est question.
Peut-on militer sur les réseaux sociaux? C'est la question que l'on se pose jusqu'à 19h sur France Culture.
Retiens bien, bientôt les téléphones seront greffés sur nos mains. Tout est programmé comme le destin. C'est pas elle qui me manque, c'est ses textos. On partage ce qu'on vit, est-ce qu'on vit pleinement? J'interdis les téléphones à mon enterrement. Je suis pas face à mon pote, mais face aux dos de son portable. On détruit lien social à coup de réseau social. On s'embrouille sur Snap, on discute sur Messenger. On se retrouve sur Skype, on se rejoint en Uber. Youn.
France Culture, le temps du débat d'été. Camille Diao.
Le rappeur Younes déplore l'omniprésence des réseaux sociaux dans nos vies. Le monde est virtuel, c'est le nom du titre dont vous venez d'entendre un extrait. Alors depuis le début de cette émission, on évoque des engagements qui prennent forme en ligne, mais il ne faut pas oublier que d'autres formes de militantisme plus anciennes ont elles aussi investi le territoire des réseaux sociaux, les partis politiques notamment, qui pour autant ont souvent un petit train de retard. Écoutez.
Aujourd'hui, tout se passe sur Internet et il faut pouvoir réagir dans l'immédiateté quand un parti politique est attaqué. Donc je crois qu'aujourd'hui, oui, au niveau de l'UMP, on a un gros travail à faire pour être présent sur Internet parce que c'est un domaine qui est essentiellement occupé, on va dire, par les 18-34 ans et globalement, c'est une population qui n'est pas acquise à l'UMP.
Aujourd'hui, les sympathisants et les militants du Front National sont extrêmement actifs. C'est quelque chose qu'on observe depuis plus d'un an maintenant, avec toute une galaxie de sites qui ont une production d'articles extrêmement importante et qui essaient vraiment d'occuper le terrain de l'information sur le web social.
C'était il y a 8 ans, à l'approche des élections de 2012, extrait d'un reportage diffusé dans le 19-20 de France 3. Benjamin Teinturier, vous menez une thèse sur l'engagement militant de la droite radicale sur Internet et les médias sociaux. On vient d'entendre ce reportage qui nous parle de l'avance finalement qu'a pris le Front National et compris les milieux d'extrême droite dans l'occupation de ce terrain. Comment se fait-elle entendre la droite radicale sur les réseaux sociaux aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des exemples d'actions virales à l'aide d'un hashtag ou quelque chose de similaire aux actions qu'on évoquait au début de cette émission?
Donc effectivement, il y a une présence précoce du Front National sur Internet. Le Front National est le premier parti français à créer un site à peu près au milieu des années 90. Au niveau européen, c'est le premier parti à investir des réseaux parallèles comme Second Life qui rejoignent en 2006. Pour autant, ce discours qui vante les réseaux sociaux, qui vante le web comme un espace de développement de la pratique politique et du militantisme, qu'on en retrouve au sein de l'UMP et d'autres partis politiques, il existe dans le Front National et il a été tenu à la fois par Jean-Marie Le Pen très tôt dans les années 2000, qui voyait dans les réseaux sociaux une façon de répondre à l'illégitimité politique qui frappait le Front National dans l'espace public traditionnel. Et il est aussi tenu par Marine Le Pen à la moitié des années 2010, où là, il est plus en question de contourner les médias traditionnels et les institutions traditionnelles de la prise de parole politique, mais plutôt de, comme disait Traoré Bintou Maria, mais aussi Baptiste Cotras, d'utiliser le potentiel rassembleur et créateur de communautés des réseaux sociaux. Et là, vous avez une Marine Le Pen qui loue l'inventivité, l'humour, la culture de ses militants sur Internet. Alors pour autant, et pour revenir à votre question, le militantisme de la droite radicale sur le web, il s'est tout à fait émancipé de la tutelle du parti père, disons, avec des actions soit à coup de poing, comme vous le disiez, la plus connue, qui montre ce système de vase communicant qu'il peut y avoir entre des militants sur le web de la droite radicale et le parti en tant que tel. C'est la demande d'interdiction de l'intervention du rappeur Black M en 2016 aux célébrations du centenaire de la bataille de Verdun, où pour célébrer la bataille de Verdun, avait été invité ce rappeur pour chanter, animer les célébrations. Alors même qu'il y avait eu cette invitation, Français de souche, qui est un compte Twitter très influent, qui a pu être baptisé de navire amiral de la fachosphère, avait mis en évidence des propos de Black M, anti-français, etc., dans une chanson un peu plus vieille. Et c'est le Front National s'est saisi de cette communauté militante en ligne, qui au départ était éloignée du parti en tant que tel, pour offrir une caisse de résonance à cette anecdote, à ce phénomène. C'est à ce jour l'action la plus virale et la plus connue quand on parle de l'engagement de la droite radicale sur les réseaux sociaux.
Ont-ils réussi à mobiliser au-delà des cercles de la droite radicale en ligne ?
Alors oui, parce que vous avez aujourd'hui l'expression de la droite radicale en ligne et le corpus d'idées, c'est un corpus qui est quand même très très divers et qui est constitué pour rassembler sur Internet et où vous pouvez pêcher à peu près à boire et à manger. Ce qui fait que vous avez dans ce qui est dit, dans le contenu même, le fond des interventions, un discours très très large et beaucoup de gens peuvent reconnaître certaines leurs propres chevaux de bataille, voilà, ils sont pas forcément eurosceptiques, mais ils vont avoir certains avis sur l'immigration, etc. Et puis, il se trouve que dans la façon, dans la forme cette fois-ci, qui configure les interventions de la droite radicale sur Internet, par exemple Français de souche, régulièrement, ce sont des photos postées sur Twitter, des revues de presse, des photos postées sur Twitter, sans aucun commentaire, de sorte que les internautes sont amenés à se faire eux-mêmes leur propre opinion, et cette opinion est très très légèrement guidée. Et ça, si vous voulez, cette publication de photographies, de contenu sans contexte, sans sous-texte, ça offre tout un tas de récupérations possibles, d'interprétations possibles, et ça permet de rassembler beaucoup de monde.
Benjamin Teinturier, le nouveau militantisme d'extrême droite en ligne, est-ce qu'il a pour but de mobiliser physiquement, ou est-ce que l'action en ligne est déjà une fin en soi, une action militante comme une manifestation ou une grève? Comment s'articule l'expression en ligne et l'action?
Alors vous avez une présence de la droite radicale dans la rue et dans le cadre de la manifestation qui est pas du tout la même que pour des mouvements progressistes. Et d'ailleurs, une grande partie du militantisme de droite radicale ne prend pas sur Instagram, puisque les codes, les normes du militantisme de droite radicale ne sont pas tout à fait solubles dans les normes d'Instagram. C'est pas les mêmes contenus qui sont viraux, c'est pas les mêmes normes d'exposition et de mise en scène de soi. Et donc tout ce système, cet écho que permettent les réseaux sociaux des manifestations, il est bien limité dans le militantisme de droite radicale. En revanche, pour les actions coup de poing, qui peuvent être des actions violentes à l'égard de squats, de lieux, de tiers-lieux, etc., celles-ci sont beaucoup plus coordonnées dans des zones secrètes du web, ou en tout cas des zones pour lesquelles il est plus simple de contrôler l'anonymat des membres, l'accession au contenu, et comme Telegram, comme WhatsApp. Et c'est le militantisme le plus virulent qui commande des actions coup de poing. Lui, il est davantage concentré dans ses fils WhatsApp, ses conversations Telegram, qui elles sont secrètes.
Josiane Jouhet, je rappelle que vous êtes sociologue, que vous étudiez les féminismes et notamment l'activisme féministe en ligne. Est-ce que vous voyez des points communs, des fils rouges entre les modes d'action que décrit Benjamin Teinturier? Alors on est aux deux extrêmes hein, du spectre, entre les réseaux d'extrême droite et les réseaux féministes, mais y a-t-il quand même un fil rouge dans l'utilisation qui est faite des outils des réseaux sociaux?
Oui, évidemment, parce que les réseaux sociaux, pour toute forme d'activisme, grosso modo, ce sont les mêmes répertoires d'action. Hein, disons, qu'on se soit à droite ou à gauche, donc il s'agit d'informer, d'alerter, de mobiliser, mais avec aussi de nouveaux modes d'action aujourd'hui, qui surtout entraînaient de la viralité. Voilà. Donc ça, c'est extrêmement important, puisque finalement, les formes d'engagement sur Internet, sont largement fondées sur une culture de partage. Alors dans ce qui est de l'extrême droite, et en particulier l'extrême droite la plus virulente, là on est dans des toutes petites communautés qui ne veulent pas s'élargir, puisque effectivement c'est du radicalisme violent. Ils vont faire des actions coup de poing, préparées secrètement, etc. Donc là, quand on est dans le féminisme en ligne, on est tout à fait dans un autre spectre. Mais ce qui me semble important, et ça a été dit tout à l'heure, c'est en fait l'agrégation. Voilà, c'est l'agrégation des paroles. Et ça, c'est quelque chose qui fait que, alors qu'Internet était considéré comme un espace virtuel à part, disons, de l'espace public dit traditionnel, aujourd'hui, on dit que c'est un espace médiatique alternatif. Il n'est même plus devenu alternatif. Hein, disons, nous sommes effectivement dans une osmose entre le virtuel et le réel. Mais ce qui me semble important dans le féminisme en ligne, c'est sa viralité. Voilà, sa viralité, qui n'est pas propre d'ailleurs au féminisme, et c'est ce que disait Traoré Bintou, c'est, disons, la libération de la parole. Voilà, libération de femmes ordinaires. Et donc, on voit effectivement, ça c'est une des caractéristiques de MeToo, une série de témoignages de violences sexuelles, sexistes. On le voit la même chose contre l'homophobie, contre le racisme. Donc, en fait, c'est un élargissement, là, disons, effectivement, très démocratique, de toutes ces paroles individuelles qui deviennent une parole publique. À partir du moment où elles sont agrégées en très grand nombre, ça devient une parole publique. Et ça a été complètement relayé par les médias, complètement relayé par les politiques. Donc nous sommes là, finalement, au cœur d'une cause qui est devenue une cause publique, enfin une cause morale devenue une cause publique, qui a été au centre, finalement, du débat public depuis 3 ans. Et ça va continuer, à mon avis.
Est-ce que vous voyez dans cette libération de la parole sur Internet une prolongation de ce qui pouvait se passer physiquement avant Internet dans les cercles militants féministes, ou est-ce qu'au contraire on est plutôt dans une forme de rupture ?
Nous ne sommes pas dans une forme de rupture. Le militantisme n'est pas comme ça sur Internet. Hein. Il n'y a pas de génération spontanée. Bien avant, disons, cette extrême publicisation aujourd'hui dans le féminisme, vous aviez des groupes militants hein, qui avaient fait des campagnes. Déjà, les féministes de la seconde génération qui se sont battus contre les violences sexuelles et sexistes. Et vous aviez eu des campagnes aussi, comme La honte doit changer de camp, lancée par Oser le féminisme, le collectif féministe contre le viol, avec le hashtag Stop Viol, qui était antérieur à MeToo. Voilà. Donc la question, c'est pourquoi MeToo, aujourd'hui, finalement, a pris une telle ampleur, alors qu'il y avait d'autres campagnes avant. Et c'est la dimension internationale là qui doit être prise en compte. Voilà.
Baptiste Cotras, on a l'impression que les causes qui ont, entre guillemets, la cote, hein, si je peux m'exprimer ainsi sur les réseaux sociaux, ce sont ces grandes causes qui échappent aux structures partisanes et militantes traditionnelles, aux partis, aux syndicats. Je pense évidemment au féminisme, à l'écologie, à la lutte antiraciste. Comment l'expliquez-vous ? Pourquoi fonctionne-t-elle mieux sur Internet et avec les réseaux sociaux ?
Je sais pas si c'est le cas. Je pense que comme le disait Josiane Jouette à l'instant, c'est des choses qui viennent aussi de mouvements au long cours, hein, que ce soit l'écologie, le féminisme, l'antiracisme, etc. Après, ce qui est sûr, c'est que Internet permet peut-être un mode d'agrégation, de mise en réseau des expériences qui est très rapide, qui est peu coûteux et qui, du coup, en fait, échappe. Se déroule à une vitesse qui est supérieure, en tout cas sur des sites qui sont beaucoup plus courts que ceux de la politique électorale, des partis, des institutions, etc. Et donc peut-être ça peut expliquer cette impression de déconnexion dans un premier temps. Après, ce qui me semble important de souligner quand même, c'est que, comme ça a été rappelé aussi, il y a beaucoup de hashtags, de mouvements, de causes qui coexistent sur l'espace public numérique à un moment donné. Et tous, évidemment, ne sont pas également valorisés. Il y en a qui percent très très fort, comme par exemple MeToo, puis il y en a qui restent beaucoup plus confidentiels. Et en fait, il y a évidemment des raisons, pour expliquer ça, il y a évidemment des raisons qui sont propres à la cause en soi, substantiellement, c'est-à-dire dans quelle mesure elle résonne avec peut-être les expériences individuelles des personnes qui soutiennent ce hashtag. Et puis il y a aussi un effet, un processus médiatique, on va dire, en deux temps, qui est que il y a aussi l'effet de projecteur qu'exercent les médias traditionnels. C'est-à-dire que on sait que sur Twitter, il y a énormément de journalistes, de communicants, de professionnels de l'édition, de la publicité, et des médias en général. Et ce qui fait que quand il y a quelque chose qui monte sur Twitter, par exemple, un hashtag qui prend de l'importance sur Twitter, de plus en plus, ça devient un objet légitime pour un article, pour un reportage, pour un sujet, en tout cas, dans les médias traditionnels, qui ont, eux, une audience qui est sans commune mesure avec des comptes Twitter militants. C'est-à-dire que un compte bien suivi, un compte militant bien suivi peut avoir quelques dizaines de milliers de followers, à la limite quelques centaines de milliers. Évidemment, quand vous avez un sujet aux 20h de France 2 sur MeToo, ou sur le, ne serait-ce que sur lemonde.fr, c'est des millions et des millions de personnes qui sont mis en contact avec, avec ce sujet. Et donc en fait, ça peut donner l'impression qu'il y a un côté viralité, autogénération de mouvements sociaux en ligne, mais en fait, un facteur explicatif très fort de ceux qui percent et ceux qui percent moins, c'est quand même dans quelle mesure ils arrivent à capter l'intérêt des professionnels, encore et toujours, de la sphère médiatique, quoi. Donc des journalistes, donc des gens qui vont pouvoir amener ces sujets-là dans les médias traditionnels et en fait en faire des sujets très grand public qui vont devenir beaucoup plus importants que, enfin toucher beaucoup plus de gens que les cercles militants traditionnels.
Alors je voudrais vous faire entendre la voix de Flavien qui est un jeune homme qui a raconté pour Arte Créative comment s'articule son engagement en ligne pour les Gilets jaunes et son engagement dans la rue.
Je m'appelle Flavien et j'ai 19 ans. Je gère deux pages. Donc c'est des pages qui sont assez assez suivies sur Twitter. Je gère une page Les Gilets jaunes. Donc il y a le Facebook et le Twitter. Et donc là, on a dépassé les 12 000 abonnés très récemment. J'essaye, par le biais de ces pages, de montrer une vision beaucoup plus positive du mouvement des Gilets jaunes en montrant des actions pacifiques, en essayant de montrer des moments de partage et de solidarité. C'est comme ça que je vois le mouvement et c'est comme ça que j'ai envie de le faire ressentir. C'est une volonté aussi des Gilets jaunes en général de vouloir faire notre propre communication avec des pages Facebook, avec des lives. L'intérêt de faire des lives, c'est de montrer comment ça se passe véritablement.
Baptiste Cotras, les Gilets jaunes, donc mouvement qui est né à l'automne 2018 ici en France, se sont emparés un petit peu différemment d'autres mouvements des outils des réseaux sociaux. Ils ont notamment été très présents sur Facebook, plus que sur Instagram ou sur Twitter. Quelle est la spécificité de leur action dans les groupes Facebook, dans les lives Facebook? Qu'est-ce que ça change dans la manière de militer et d'occuper le terrain en ligne?
Bah déjà, je dirais que la première spécificité, avant même ça, c'est que c'est un mouvement qui tout de suite s'est décliné entre numérique et espace public physique. C'est-à-dire que, en fait, les groupes Facebook, ils appelaient à manifester le 17 novembre 2018, etc. Et puis après, ça s'est prolongé tous les samedis pendant des mois. Mais disons que l'originalité de ce mouvement par rapport au mouvement de hashtag dont on parlait, c'est que très très vite, en fait, dès le départ, ils associent discussion en ligne, militantisme en ligne et occupation de l'espace physique. Et donc sur des modes d'action très traditionnels de la manif, du défilé, etc. Après, pourquoi est-ce qu'ils utilisent Facebook plus que Twitter? C'est difficile à expliquer, mais en gros, c'est pas un militantisme de hashtag. C'est en fait les groupes Facebook qui servent d'abord à coordonner l'action. Il y a des travaux qui ont été faits notamment au Media Lab qui étudient bien en fait la, par exemple, les centaines de pages de groupes Facebook de tel ou tel département, de telle ou telle commune, parce qu'en fait, c'est des groupes qui ont avant tout pour but de s'organiser à un niveau, encore une fois, territorial, donc de l'espace public traditionnel, pour dire, voilà, on va manifester tel jour, on va occuper tel rond-point, on fait un péage gratuit à tel endroit, etc. Et donc, en fait, ces groupes Facebook, ils servent évidemment à débattre, à partager de l'info, à discuter, à mettre en commun des sujets, mais aussi à coordonner l'action dans l'espace physique. Ce que prétendent beaucoup moins faire les militantismes sur Twitter ou sur Instagram, où en fait le but c'est d'obtenir de la visibilité. Parce que sur Twitter, vous avez les trending topics, qui est un système algorithmique qui permet à Twitter d'afficher en fait quels sont les hashtags les plus populaires à un moment donné. Et le but, c'est d'arriver dans les sujets à la mode, dans les sujets du moment, et par là, d'intéresser beaucoup de gens. Alors que sur Facebook, c'est des espaces beaucoup moins visibles. Alors évidemment, c'est des groupes qui peuvent avoir plusieurs dizaines de milliers de suiveurs, mais en fait, qui cherchent moins à occuper l'espace médiatique que à favoriser la discussion et surtout la coordination entre les groupes.
Josiane Jouette, les mouvements féministes ont-ils la même utilisation de Facebook ou en tout cas des outils du web comme moyen de s'organiser pour agir dans le réel ?
Oui, exactement les mêmes moyens. Je pense que c'est le cas finalement de tous les réseaux sociaux. Dans le mouvement féministe, Facebook est plus un mouvement d'organisation. C'est là qu'on voit le plus les communautés. Sur Twitter, c'est plus un média de réactivité à l'actualité. Alors que sur Facebook, vous avez beaucoup de posts, parce que c'est très difficile d'être militant, il faut poster en permanence. Donc une pléthore de contenu avec des images, beaucoup d'informations, beaucoup de commentaires sur l'actualité. Et disons, les réseaux sociaux, ils servent aussi à faire événement, comme on le faisait autrefois, mais avec, disons, une résonance beaucoup plus forte. Donc c'est très très important pour coordonner les actions. Et vous avez beaucoup d'informations qui vont mentionner des réunions, des assemblées générales, l'organisation d'ateliers pour former les femmes aux outils numériques. Donc on voit que il y a une grande coordination. Il y a différents niveaux et en même temps, toute cette conversation qu'il y a avec les femmes qui suivent, voilà. Ou les hommes d'ailleurs, parce que...
Puisqu'ils peuvent aussi s'engager dans les mouvements féministes.
Absolument, il existe des hommes féministes.
Traoré Bintou Mariam, je vous laisse le mot de la fin très rapidement. Quelles sont les suites que vous envisagez au hashtag Vraie Femme Africaine que vous avez lancé au mois de mars? On est 6 mois plus tard, je suppose qu'une fois que la grande vague de mobilisation autour de ce hashtag est un petit peu retombée, voilà, quelles sont les suites que vous imaginez à présent?
Déjà, je ne les ai pas vraiment imaginées, mais ça s'est déjà concrétisé. Après ce hashtag, j'ai vu que les femmes ont commencé à s'organiser à travers beaucoup de pays africains. On a la Côte d'Ivoire avec la Ligue ivoirienne des droits des femmes, on a le Burkina Faso, on a le Cameroun, on a énormément de pays. Ce matin, j'ai une femme qui m'a écrit, ça m'a vraiment, limite je voulais pleurer, qui m'a dit qu'elle est ivoirienne, qu'elle n'avait pas conscience de beaucoup de choses, elle avait subi des violences sexuelles, mais qu'avec la culture du viol et beaucoup de choses, elle s'était pas rendue compte en fait de ce que c'était. On a de plus en plus de jeunes filles, de jeunes femmes africaines et ivoiriennes qui s'engagent sur les réseaux sociaux, qui assument le mot vraiment féministe. Aussi, j'ai créé une page qui s'appelle le matrimoine africain, parce que j'avais remarqué que les femmes africaines ne connaissaient pas vraiment leur histoire, où on leur faisait croire beaucoup de choses. Ah oui, pendant les luttes, vous n'avez été que des accompagnatrices. Voilà ce qui s'est passé. J'ai créé cette page-là et chaque jour, je mets en lumière des femmes africaines. Je vois que de plus en plus de femmes sont intéressées par leur passé.
Donc ce hashtag n'est qu'un des versants de vos luttes sur Internet et sur les réseaux. Merci beaucoup, Traoré Bintou Mariam. Merci à tous d'être venus participer à ce temps du débat. Josiane Jouette, Baptiste Cotras, Benjamin Teinturier, peut-on militer sur les réseaux sociaux? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas séparer virtuel et réel, c'est ce qu'on retiendra de cette émission. Merci à l'équipe du Temps du Débat pour la préparation de cette émission. Sophie Alavie, Mathilde Tonfourcade, Alexandra Delbo, Nicolas Berling, Audrey Dugas, à la technique Élise Le, à la réalisation Émilie Valla. On se retrouve demain 18h15. Très belle soirée sur France Culture.